19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir à ceux qui viennent de nous retrouver durant une heure. Nous sommes ensemble ici même dans Les Informés. Toujours un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, Les Informés, on est ensemble jusqu'à 20h. Et à 20h, le mot d'ordre ne change pas. D'abord, un, on ne lâche rien. Puis deux, analyser, commenter et décrypter l'actualité. Et puis vous aussi, au standard, comme vous le faites chaque soir. Vous êtes nombreux d'ailleurs à venir vous saisir de votre combiné au 0153 48 3000 pour nous appeler, pour commenter l'actualité, pour passer des coups de gueule, des coups de cœur, mais également aussi réaction à l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu notre attention aujourd'hui? D'abord, on va parler des enfants de la liberté, des conséquences, vous savez, avec le réalisateur qui sera en personne avec nous, ici même, en direct, justement pour parler de son film, Les enfants de la liberté. Je dois dire que c'est... Bon, on va en parler dans une poignée de minutes. Ensuite, à 19h30, c'est le Quoi de Neuf avec le docteur Majid Sehoussine qui viendra nous livrer, vous savez, son regard, son point de vue, son édito autour des législatives et des investitures. J'imagine, d'ici là, à 19h30, qu'il va parler de diversité. Ensuite, les trois sujets qui ont retenu notre attention. Législatives, justement. Emmanuel Macron, attention, les sondages qui lui réservent, justement, cette majorité à l'Assemblée nationale, selon un sondage. Alors, est-ce que Mélenchon va venir bousculer ces législatives? Est-ce que Le Pen, elle aussi, va venir gratter un peu le terrain dans le territoire, justement, français pour ces législatives? Enjeu, décryptage, on va tout savoir tout à l'heure avec les débatteurs. Autre sujet, Nicolas Sarkozy qui se fait tacler par le père de Valérie Pécresse. Mais moi, j'ai envie de dire, le père de Valérie Pécresse, pour quelle raison s'exprime-t-il? Parce qu'il a atomisé Nicolas Sarkozy. Ce mec ne sait pas vivre. Voilà ses déclarations. Je laisserai le soin aux débatteurs tout à l'heure de réagir et de commenter cette actualité. Ensuite, nous aurons direction, vous savez, avec cette actualité. Nous parlons de cette guerre qui dure et qui perdure. Et des troupes russes, justement, jusqu'où ira-t-il Vladimir Poutine? Les renseignements, les services de renseignement, la CIA considèrent que l'objectif de Poutine, justement, c'est d'aller et de pousser jusqu'à la région séparatiste de Moldavie. Aïe! Bon, nous saurons tout cela tout à l'heure avec les débatteurs, commentateurs, influenceurs, Rudy Kazi, mais également Gamal Abina, mais aussi vous aussi au 0153 48 3000. Justement, ça se passe en direct, ça se passe surtout ici sur Beurre FM et en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Et Les Informés, nous démarrons cette émission avec l'invité du jour.
Les Informés, l'interview. L'interview.
Et l'interview, vous savez, c'est les enfants de la liberté, les enfants de la liberté, avec Maga Ettori, le réalisateur en personne qui est avec nous. Bonsoir Maga Ettori.
Bonsoir Adil.
Merci
de m'accueillir dans ce temple de la liberté d'expression que sont les informés.
Ça devient rare, hein.
Oh là, un point.
Bravo. J'ai envie de commencer par vous dire bravo, parce qu'il fallait oser. Oser de parler des conséquences, justement, de ce qu'on vient de vivre. Les enfants de la liberté. D'abord, j'aime beaucoup vos titres. Comment vous l'avez. Comment il est né, ce titre? Comment il est arrivé? Comment vous l'avez pondu?
Alors, juste une petite précision avant de vous répondre à cette question. Je n'ai fait que co-réaliser le film, puisque ma fille est également
Ariakina.
Tout à fait.
Qu'on salue chaleureusement.
Voilà. Et alors, pour les enfants de la liberté, donc il faut savoir que en fait, c'est la suite d'un film qui a déjà été qui est sorti au mois de septembre,
oui.
qui s'appelait Liberté Blouse Blanche.
Oui.
Voilà. Donc, si vous voulez, il s'avère que dans ce film,
oui.
On a été interpellé par un collectif Blouse Blanche qui nous a dit, bon voilà, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est que vous êtes attaché à ça. Et on aimerait, avant le 15 septembre, on voudrait évoquer notre sort et on n'arrive pas à communiquer, mais médiatiser, que ça vous intéresse.
Bon, j'aime donc, bien parce que vous avez pris comme accroche le quoi qu'il en coûte, les enfants de la liberté. J'aime beaucoup. Alors, dites-moi, le synopsis, mon cher réalisateur, c'est une aide-soignante, hein, une aide-soignante, et elle est mère de famille de trois enfants. Elle est engagée, hein, d'accord, auprès des droits, comment on peut dire, soit fondamentaux.
Les droits fondamentaux.
Voilà. Et alors, et ensuite, qu'est-ce qui se passe justement pour cette mère de famille?
À un moment donné, elle se retrouve. C'est elle qui est formidable, en fait. C'est elle qui est une tour d'inspiration dans le film. Le film, c'est elle. On a
Elle est voilée.
Oui, elle porte le turban.
Le turban.
Elle assume. C'est quelqu'un de très très libre. Quelqu'un de très engagé et qui devient une source d'inspiration pour des gens dans la France entière et même au-delà, puisque à travers les actions que nous menons, elle est interviewée aux États-Unis, elle est interviewée un peu partout, donc ça devient une vraie source d'inspiration.
Et on est au cœur. Et attendez, vous précisez quand même quelque chose, mon cher réalisateur, mon cher Maga et Tori, c'est qu'on est au cœur de la pandémie.
On est au cœur de la pandémie, on est vraiment dans un combat qui n'est pas facile à mener. On est sur une personne qui est au muro isolé et qui d'un
muro
coup,
dans le 78.
Voilà, tout à
on
fait.
On est écouté.
Qui d'un coup se retrouve dans la lumière.
Sur le 100.5. Et vous savez ce que je vous propose, monsieur le réalisateur, c'est d'écouter justement un extrait de votre film avec votre fille. Justement, ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait. Ariakina Etori, qui est votre fille, Maga Etori, les réalisateurs. Écoutons justement cet extrait. Le film s'intitule « Les enfants de la liberté ».
On m'a pris ma fille, on m'a pris ma vie. On m'a tout pris.
J'ai encore du mal à réaliser qu'elle n'est plus là.
C'est l'État qui est coupable de la mort de Sophia, c'est pas ses parents.
C'est un scandale et qu'il y a des logiques financières et d'économie derrière qui sont absolument honteuses.
Liberté !
Résistance !
Liberté !
Résistance !
Sonia du collectif des Blouses Blanches.
C'est une série d'interviews, justement, hein, de témoignages, Maga et Tori. Justement, avec vous, avec votre fille Ariakina, vous avez rencontré des scientifiques, des médecins, des politiques, des témoignages aussi de personnes qui ont perdu la vue parce qu'ils se sont fait vacciner. Vous parlez de cette crise sanitaire et du système de santé, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça, qui ont perdu la vue ou qui ont perdu la vie également. Oui. On parle de jeune fille, mais ça, il y a quelques exemples, mais c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment à un moment donné, quelle est la place de la liberté d'expression dans la société aujourd'hui.
Oui, parce que vous-même, vous êtes journaliste, hein, et c'est une enquête. Exactement. Est-ce que votre film, c'est une enquête journalistique, justement? Une
oui,
enquête où vous nous plongez au cœur d'une immersion, justement, des conséquences de cette pandémie du Covid-19?
Tout à fait. On a juste dérogé une fois à l'exercice journalistique, c'est-à-dire on est juste un peu intervenu une fois dans l'histoire, en permettant à Sonia Mouchy, donc la leader des Blouses Blanches, de rencontrer les députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ce qu'ont fait les lois. Et on a filmé le face-à-face, en fait.
Vous étiez au Muro, c'est basé au Muro, d'ailleurs, quoi qu'il en coûte, parce que Sonia, qui est justement aide-soignante, elle dit qu'il est intolérable que le gouvernement désigne les soignants comme les coupables de cette propagation du virus. Sonia, c'est le fil conducteur de votre film.
Tout à fait. C'est un vrai portrait. On l'a suivi pendant 6 mois. Comme je vous disais, il y avait eu un premier film. Le film, quand il a été montré, on a eu 700 commentaires qui ne parlaient que d'elle. Alors qu'il y avait des gens, il y avait des scientifiques, il y avait tous les commentaires allaient vers Sonia parce que c'est quelqu'un d'une sincérité absolument incroyable. Quand elle rit, quand elle pleure, quand elle jure. Il n'y a pas de faux semblant, en fait. Et du coup, ça touche les spectateurs.
Il y a une déclaration que je reprends. Les enfants des quartiers populaires, ils sont les premières victimes des restrictions sanitaires. D'ailleurs, vous le mettez en exergue dans votre film, l'impossible dialogue.
Tout à fait.
Je vous pose la question, votre film aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez attirer l'attention du grand public ? Vous voulez attirer l'attention aux différents acteurs politiques ? Au fait, votre film, il est destiné à qui ?
Le film est destiné à tout le monde. C'est-à-dire, effectivement, le film devait être montré à l'Assemblée nationale, donc on attend que ces gens-là le voient. Mais on n'est pas... Sur ce point-là, on fait plus confiance à l'intelligence des spectateurs qu'à la sensibilité de nos élus. Parce que quand vous avez une élue qui vous regarde dans les yeux, et c'est ce que vous allez voir dans le film, et je ne vais pas le spoiler, mais juste ce passage, quand il y a une élue qui vous dit « il y a une fille qui est morte, mais on n'avait pas tout prévu, mais ça me laisse pantois, je n'ai pas de réponse », moi je suis stupéfait en fait.
Oui.
On se demande pourquoi on a 577 députés à l'Assemblée.
Et en tant que journaliste, vous êtes aussi choqué ?
Ah mais clairement, avec
le recul aujourd'hui, comment vous vivez justement tous ces témoignages que vous avez récoltés pour votre film ?
Bah, comment je le vis ? En fait, moi, j'ai trois casquettes. Je suis à la fois cinéaste, journaliste et militant. Donc, mon militantisme, en général, fait que je réagis à toute forme d'injustice. Ayant vécu ce que j'ai vécu dans le 78 et au Mureaux, ma réaction, elle est simple. Elle est très, très simple. Je m'engage en politique, je me présente aux législatives et je vais faire le ménage.
Ari Akina, qui est votre fille, elle est jeune, hein. Elle est toute jeune. C'est son premier film, hein.
Oh que non, mon ami.
Non.
Elle a 21 ans. Elle a déjà été
primée. J'ai vu.
Tout à fait. Ouais.
À l'âge de 10 ans.
Primée. Ouais, exactement. Donc elle est née là-dedans. À 5 ans, elle était déjà au Casino de Paris. C'est une enfant de la balle.
Quand je disais c'est son premier grand film, c'était le sens de la question, hein.
J'ai bien compris.
Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs, Maga et Tori, justement, pour aller... votre film est en ce moment même à l'affiche, hein ?
Tout à fait. Alors, on vient d'apprendre que, en fait, la séance de samedi est complète et que le cinéma fait une séance supplémentaire lundi soir, 16 à 20h30.
Où ça ?
Donc, pour ceux qui peuvent se déplacer, ce que j'ai envie de dire, c'est très simple. Si vous avez besoin d'y croire encore, si vous avez besoin de tours d'inspiration, si vous avez besoin de croire que tout est possible, venez voir ce film et vous allez voir une personne qui lâche rien, dans tous les cas de figure.
Où précisément ?
Alors, au CGR, au cinéma multiplex de Mantes-la-Jolie.
Oui.
Et on voulait effectivement... Il va être présenté la semaine suivante au Festival de Cannes, mais là, on voulait absolument... que ce soit montré en région et on a eu la
pourquoi le choix pourquoi le choix de Mantes-la-Jolie. Je sais que le cinéma multiplex, le CGA, est un grand cinéma. Pourquoi le choix de Mantes-la-Jolie?
Le choix de Mantes-la-Jolie parce que a priori ils ont décidé de montrer le film, ils l'ont vu, ça leur a plu, et d'autres cinémas où on avait porté notre choix qui sont trop politisés pour montrer le film ont décidé de ne pas le montrer. Donc
une séance supplémentaire dimanche prochain?
Non, une séance supplémentaire lundi prochain 16 à 20h30.
Bon, écoutez les auditeurs, lundi prochain, notez bien 20h30, tous celles et ceux qui habitent la région du 78, Mantes-la-Jolie, allez vraiment, vraiment je vous invite à aller voir Les Enfants de la Liberté. Bravo Maga et Tori et
Bravo à vous Adil et continuez comme ça parce que vous êtes formidables. J'écoute régulièrement votre émission et je m'en régale.
Écoutez, merci à vous, vraiment merci. Et on lâche rien comme on dit, hein. Vous
on
savez.
Lâche rien.
Merci. Je vais finir avec justement, je vais demander à mon réalisateur de rediffuser l'extrait. On va finir avec votre extrait et il faut aller voir le film Les Enfants de la Liberté. Merci. Mon cher Maga et Tori,
merci,
à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Et bon vent au Festival de Cannes. Hein.
Merci.
On m'a pris ma fille, on m'a pris ma vie. On m'a tout pris.
J'ai encore du mal à réaliser qu'elle n'est plus là.
C'est l'État qui est coupable de la mort de Sophia, c'est pas ses parents.
C'est un scandale et qu'il y a des logiques financières et d'économie derrière qui sont absolument honteuses.
Moi, ça me donne envie. Il faut y aller, hein, Gama Labina.
Avec plaisir.
Franchement.
Si le film est bon.
Il est bon, le film. Franchement, il faut y aller. Rudy Kazik, ça va ?
Très bien.
Bon, très bien. Bonjour, messieurs le débatteur. Le face-à-face, c'est parti tout de suite.
Les informés Le face-à-face.
Rudy Kazi, qui est un acteur politique, justement élu, mais également aussi dans l'Association des élus de France. Gamal Abina, lui, qui est un commentateur politique et aussi un leader d'opinion auprès, évidemment, de plusieurs mouvements. Merci, messieurs. Tout de suite, nous allons démarrer avec ce premier sujet, si cela vous va. D'ailleurs, non, tiens, je vais démarrer la pub, parce que c'est l'heure de la pub. C'est mieux, parce que si je vous donne la parole, Rudy va me dire, ah, mais je viens de dire juste deux mots.
Pub. Toujours
ah,
la
oui,
pub.
Ah oui, toujours pub. À chaque fois, c'est vrai, ça vous remarquerez, hein. À chaque fois, je donnais la parole à Rudy. Pub! Ah, le pauvre, il a pas de chance. Eh ben, pub, et on se retrouve tout de suite pour parler des législatives avec le chef de l'État, vous savez quoi, qui récolte durant les sondages exclusifs qui concernent la majorité. On va en parler, on va décrypter tout cela tout de suite. Et vous-même, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h22, si vous venez de nous retrouver, c'est parti tout de suite, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Allez messieurs, nous allons commenter cette actualité législative, ça se bouscule et ça se précise justement à quelques semaines de ce premier tour, parce que justement, ça y est, c'est quasi officiel, le lancement va se faire entre mercredi, jeudi, vendredi, les différentes évidemment mouvances politiques avec Mélenchon qui lui aussi, ça y est, hein, il a un peu plus de précision, mais on va s'intéresser à Emmanuel Macron et ce sondage qui conserve la majorité à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que, tiens, on va se projeter un peu et on va essayer de réfléchir un peu, on va se poser, on va essayer de décrypter. Pour quelle raison Emmanuel Macron peut l'emporter et peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, Gamal Abina? Bah là, ah, vous grincez des yeux déjà, vous.
Non, mais parce que les,
j'aime bien.
Dire que les projections qui sont données aujourd'hui sont quand même, bon, on est un petit peu tôt, mais...
Bah, elles ont été jugées jusqu'ici. Hein.
Non, non, mais elles prouvent une chose indiscutable.
C'est quoi?
C'est que Macron est à droite aujourd'hui et que la droite est chez lui, hein, clairement.
Ouais.
Et surtout qu'il avait un énorme socle électoral qui n'a jamais bougé. Je veux dire, depuis le début, on le décrit, on dit qu'il ne va pas marcher et tout. Il est passé tranquille à la présidentielle. Il est passé tranquille dans toutes les élections locales. Il y a une petite contre-performance, effectivement, à un moment donné, mais sinon, c'est bien passé.
Oui.
Et puis Macron, dans tous les cas de figure, c'est quelqu'un qui est un vrai stratège. Il a su capitaliser.
Il est vraiment fin
c'est un très bon. Ouais. Il doit jouer aux échecs, ouais. Hein, c'est évident. Parce que lorsque ça ne se passe pas bien à gauche, il met le paquet sur la droite, il fait une politique de droite, il séduit ce qui reste de l'UMP, enfin, l'ex de l'UMP, des Républicains, il reste plus grand-chose. C'est ça qu'il a fait. Et il a vraiment fait une captation considérable qui fait que même aujourd'hui, encore, on a des défections. Hein. On voit bien qu'il y a des gens qui le rejoignent. Donc, et en plus, sur un plan marketing, il est bon. Franchement, parce que entre La République En Marche, qui était un nom assez pourri, mais qui n'était pas très fort, et Renaissance, qui donne le sentiment qu'il renaît ses cendres comme le phénix. Mais en vérité,
Renaissance, c'est bien trouvé. Hein.
C'est bien joué parce qu'on sent bien qu'il sait qu'il y a des contestations lourdes. Et il se dit, bah, on va faire une sorte de renaissance politique d'un parti qui semblait mort.
On peut dire ce qu'on veut. Mais il est bon, hein, cet animal politique. Hein.
Ah, c'est un animal politique, c'est ça.
Non, mais ça, ça vous fait sourire, non?
C'est jeune en plus.
Oui, ouais, je. Bah, de toute façon, avec 5 ans au pouvoir, une fois qu'on a la maîtrise de l'appareil politique, on a un peu plus d'expérience. Et puis, je pense qu'il s'était déjà plutôt bien entouré au départ. Et puis, non, je pense qu'il n'est pas tout seul aussi à projeter des stratégies comme ça, tu vois. Mais moi, pour répondre à la question de base, je dirais, enfin, pour répondre à la question qui était pourquoi est-ce qu'il serait possiblement à nouveau gagnerait à nouveau les législatives. Bah déjà il y a le fonctionnement de la République, de la Ve République, qui fait que on donne entre guillemets les pleins pouvoirs législatifs au président qui gagne.
On là, parle de quand même 350 sièges, les amis. Hein. On
maximum parle de, 350 on parle sièges.
C'est ça, entre 310 et 350.
Bah oui, mais comme en 2017. Donc,
pour le 12 et 19 juin.
Voilà, à peu près comme en 2017. Donc rien qu'en partant de ce principe, la manière dont est organisée l'élection législative, ça paraît très compliqué de l'imaginer perdre les législatives. C'est pas parce que c'est vrai que on aurait pu penser que Mélenchon et l'Union populaire, enfin NUPES là, le nouveau nom, on aurait pu penser que avec les résultats au premier tour de la présidentielle, ils auraient pu avoir une espèce de raz-de-marée. Mais tant qu'on n'est pas sur la proportionnelle aux législatives, ça paraît compliqué d'équilibrer un petit peu les voilà. Eux, on les voit à peu près à quoi, 170.
Qui ça? 170
à peu près sièges.
170.
Bah, déjà, ce
avec
une
les
première.
Républicains,
ce serait une première parce que justement,
vous passez quand même.
Moi, je suis républicain. Moi, faut arrêter de dire que je suis républicain. J'ai été républicain.
Ah, vous étiez. Voilà, il me semblait.
Non, mais aujourd'hui, je suis UDI. Donc
vous avez changé
loin,
alors.
C'est pas loin.
Ouais, ça fait 5 mois.
Ben, je savais pas, moi. Vous m'apprenez quelque chose. Clochette.
Je vous l'ai dit.
Vous m'avez rien dit. Moi, je suis resté Valérie Pécresse.
Je vous l'avais dit.
Ah bon?
Et pourquoi Pécresse? J'ai jamais été du côté de Pécresse.
Ben, je croyais que vous étiez républicain.
Mais non, mais vous inventez, en fait, des vocations comme ça. J'étais républicain jusqu'en 2016. Après, j'ai pris mes distances avec, entre guillemets, les partis. Et depuis que je suis élu en 2020,
il y a eu un blocage dans mon cerveau.
C'est à 5 mois que je me suis rapproché.
J'ai bloqué dans mon cerveau.
C'est pas grave.
J'ai le droit de clocher, tiens, moi aussi.
En tout cas, ce sera la première fois qu'un groupe, en tout cas animé par Mélenchon, serait le deuxième groupe le plus important de l'Assemblée nationale.
Vous pensez que Mélenchon sera le deuxième groupe le plus important? Ouais, c'est pas la gauche.
Je pense qu'en tout cas, la droite.
C'est pas la gauche, non?
Ça va être un peu compliqué. La gauche, quelle gauche?
L'Union de la gauche. L'Union de la gauche.
Ah, mais oui, c'est de Mélenchon. De la gauche, je parle d'un groupe.
On parle de 165 députés maximum, les amis, hein, quand même. Hein,
S'il a eu.
De Malabina. C'est beaucoup, hein?
Il faut reconnaître à Mélenchon une qualité. Il a réussi l'impossible. Il a réussi à unir.
Il va s'imposer.
Oui, non, je sais pas s'il va s'imposer.
Vous allez voir.
En tout cas, il s'est déjà imposé à gauche.
Il a réussi l'impossible. D'abord, il est arrivé troisième à la présidentielle. Ensuite, il a réussi à mettre d'accord des gens qui se détestent cordialement. Je parle, de la bataille qui s'est passée avant l'élection présidentielle.
Non, mais là, ils
que ce soit
le
les Verts, le comité. Ouais, parce qu'ils sont morts. Ils savent très bien qu'ils sont morts. S'il n'y a pas d'union de la gauche, comme Mitterrand l'avait fait il y a 50 ans, en 72, ils s'en sortiront pas. Après, le résultat de cette union qui reste une gauche forte, reste malgré tout, si jamais les pronostics sont exacts, un échec. On est à la moitié de ce que ferait Macron. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la majorité et son rêve de devenir Premier ministre tombe à l'eau de fait. Donc c'est vrai que.
Non, mais là, c'était l'utopie, là, non?
Non, c'est
clair. Non, il y a cru un temps.
Utopie. Comment ça, il y a cru? Comment on peut.
Il y a cru parce qu'il voulait créer une dynamique. Une dynamique inattendue à gauche. Et c'est vrai qu'il peut se vanter sur un point, on ne peut pas lui retirer une qualité, c'est que ce soit en 2017 ou en 2022, son score supposé dans les sondages a été complètement démenti dans les faits. Il a fait minimum 3 à 5 points de plus à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il peut espérer quelque chose, mais je crois malheureusement que la gauche française est morte et enterrée quasiment, en dépit de ce dernier sursaut. Je pense que Mélenchon a commis beaucoup d'erreurs, même s'il a fait une campagne incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, le Français de base, il ne se pose pas la question sur un programme de 680 points.
Lui, il se pose quoi comme question?
Il est séduit par des postures, par le sentiment qu'on va le rassurer, par des phrases clés, par des slogans. Malheureusement, c'est ce qui marche. On voit bien avec le phénomène Zemmour, on voit bien avec Macron qui n'a pas fait campagne. Macron ne présente pas de programme, il n'a rien dit. Il fait un bilan qui n'est pas forcément extraordinaire et pour autant, il séduit. Pourquoi? Parce qu'il a une image sympatoche, parce qu'il passe pour le bon gars, parce qu'il est jeune, parce que beaucoup de choses comme ça.
Il y a la période.
Voilà, exactement. Il y a l'Union Européenne, il y a la guerre en Ukraine.
Voilà.
À la sortie du Covid. D'ailleurs, les masques seront, je vous l'annonce, officiellement, dès lundi prochain, c'est fini les masques dans les transports, en commun, partout d'ailleurs. Bus, ça y est, considérez, vous allez respirer.
Il y a énormément de personnes qui ne portent pas de masque.
Non, mais moi, je parle quand même. RER, métro, bus, taxi, avion, finito le masque.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. On va respirer.
Quand même sur Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, je me demande s'il voulait vraiment être le Premier ministre et avec cette sortie qu'il a faite.
Je crois qu'il a raison, Kamal, il voulait
l'être. Moi, je pense, c'est ça n'engage que moi. Qu'il a pensé qu'il ne le serait pas, mais qu'en tout cas, il l'a visé de pouvoir l'être, de façon à pouvoir unir la gauche derrière lui. Je pense que c'est une stratégie. Élisez-moi, Premier ministre, de façon à unir.
Je ne crois pas une seconde. Simplement,
je pense qu'il y a cru. Parce qu'il est porté quand même par son hubris. Voilà, mais je pense qu'il y avait surtout un objectif de galvanisation. C'est-à-dire, si jamais il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas,
c'est un
fast trajet.
Il a raison.
Moins,
c'est un fast trajet. C'est qu'il a eu un coup d'avance.
Obligé,
sur
il y a pensé.
Je pense vraiment qu'il est convaincu, parce qu'ils ont eu un échec qui s'est joué à pas grand-chose, finalement. Il est convaincu, lui, troisième force politique française, sachant que le FN, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Rudy, ne peut pas gagner pour des questions proportionnelles, donc le FN est déjà en jeu. Ce sera 20-40.
40-40 maximum, siège.
Maximum, et encore, il est toujours très optimiste. Je pense que lui, avec une assise de gauche qui est très présente à l'Assemblée, c'est pas une faible gauche, je parlais du PS, et cette union avec les communistes qui n'existait plus, il y a cru. Malheureusement, aujourd'hui, les sondages semblent lui dire non, c'est pas possible, mais c'est vrai que
donc il devrait conserver Macron. La majorité.
Au moins Mélenchon aura gagné le pari d'unir la gauche, ce qui n'était pas vraiment gagné au départ. Et quand même, faut dire qu'on assiste à quelque chose qui se rapproche effectivement un peu plus de ce que Mitterrand avait fait, d'unir en fait une gauche mais très disparate avec des points de vue totalement différents. Après, je trouve que le procès qui lui est fait, oui, bon, voilà, l'extrême gauche, etc. Moi, il y a énormément de choses que je partage pas avec Mélenchon, mais si je dois analyser les choses d'un point de vue purement politique, moi, allez, je me dis qu'il a réussi à un coup de force. Nous, et sur le plan absolument purement politique, je trouve que c'est pas inintéressant,
ne nous,
quoi.
Ne nous mettons pas en retard, 19h31, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi. Vous savez, c'est avec qui? C'est avec le professeur, le docteur Majid Soussine. Comment ça va, le professeur?
Bonjour, mon cher Adil.
Je vais vous appeler désormais le professeur. Ça vous dérange pas?
Écoutez, je trouve
que ça vous va bien. Je sais pas, ça vous colle bien.
Vous heurtez ma modestie et mon humilité.
Allez, docteur Majid Soussine, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôtel, donc aux Invalides, mais aussi au SAMU. Et vous avez décidé de consacrer votre édito, eh bien, tout simplement, à l'investiture, les législatives, la diversité. On vous écoute, la parole est à vous.
Merci, mon cher. Je vois quand même qu'après une longue absence qui démontre quand même votre peu de sérieux et votre absence d'amour pour ce pays, et aussi pour la radio, que vous nous revenez comme si de rien n'était avec une insolence et une arrogance qui vous caractérisent.
Clochette ! Voilà, il a le droit à ça, ça y est. Non, mais attendez, docteur, allez-y.
Alors que le monde entier attend de savoir qui sera le futur Premier ministre de la France, vous partez à l'autre bout du monde, laissant les auditeurs orphelins. Ce nouveau Premier ministre dont le président, avec un goût consommé du suspense, dit savoir le nom, c'est d'ailleurs bien le moins qu'on puisse attendre de sa part puisqu'il est supposé le nommer, ce nouveau Premier ministre est une espèce d'imam caché dont tout laisse à penser qu'il ne s'agit pas de Manuel Valls, qui malgré tous ses efforts devra se contenter d'une investiture pour être peut-être député des Français de l'étranger dans la circonscription qui inclut l'Espagne, dont il est parti il y a peu après un retentissant échec à s'y installer. Le voilà de nouveau français, de nouveau intéressé par les intérêts de ce pays, ouais, qu'il veut défendre, en restant tout de même quand même un peu espagnol. Si j'étais d'extrême droite, je le traiterais de français de papier, où je lui dirais, la France, tu l'aimes ou tu la quittes.
C'est ça.
Comme ce n'est pas mon genre, je le traiterais juste de commis voyageur ou de Saint-Matelot. Vous savez, Adil?
Oui.
Saint-Matelot,
oui, spécialiste exactement
du paillasson. Quand on regarde la liste des investitures, je pense que l'on peut aussi donner un accessif particulier à Robin Reda, très sympathique jeune député Les Républicains de l'Essonne, jusqu'il y a peu, c'est-à-dire jusqu'à samedi midi, 7 mai au matin,
les Renaissances,
où il tractait sur les marchés pour Les Républicains.
Maintenant,
car l'après-midi même, ceux-ci apprenaient qu'il se maintenait sa candidature, bien sûr, mais sous les couleurs d'ensemble. Vous voyez, Adil, les investitures, c'est un peu comme le Covid. Les vagues arrivent peu à peu et les noms se dévoilent. Ce n'est pas un effet de l'air, mais simplement le reflet du jeu des négociations entre alliés de la majorité. Ce qui n'est pas facile, car il faut quand même être capable d'avaler la pilule quand le militant local, bien engagé, bien connu, est avancé par un champion en parachute issu d'un cabinet ministériel qu'il faut recaser.
Ouais.
On voit que chez En Marche, devenu Renaissance, ça se colore. C'est déjà un acquis en soi, mais ce qui compte tout de même, c'est les places où il y a un peu de pouvoir. Et là, on reste encore un peu sur notre faim. Je reste sur ma morale habituelle. Promotion de la diversité sur la base de la qualité et de l'engagement.
Ouais.
Diversité et femmes, même combat, dirais-je. Et plus le temps passe, plus nous sommes exigeants, me ferez-vous remarquer, mon cher Adil.
Oui.
Mais n'est-ce pas le propre de ceux qui grandissent? Et en politique, comme en amour, ce sont les preuves qui comptent.
Vous avez raison. C'est vrai. Bravo pour votre billet. J'ai envie de vous poser cette question, docteur. Dites-moi, oui, est-ce que vous considérez que la représentativité, la diversité, autant dire, dans les quartiers populaires, est-elle suffisamment représentée dans ces législatives? Dites-moi, avec évidemment tout bord politique. Hein.
Bah, écoutez, on a bien vu quand même que certains militants qui étaient engagés, des militants de terrain, des militants représentatifs, n'ont pas été investis ou sont retrouvés écartés. Donc ça laisse encore un peu sceptique. Et puis, aujourd'hui, on est passé à un stade ultérieur. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Il y a 20 ans, on espérait voir un premier maire issu de la diversité, un premier député issu de la diversité. Ben non, c'est chose faite. Maintenant, on voudrait que ça se banalise. Que ce soit quelque chose qui soit naturel sans qu'on ait besoin de compter.
Mais je crois que ça le devient.
Ça, il reste encore des choses à faire.
Ouais.
Il reste...
Vous avez raison, c'est vrai.
Je voudrais, par exemple, puisqu'on va avoir un Premier ministre et un nouveau gouvernement, des ministres, avec des ministres d'État issus de la diversité, et pas des ministres prétextes. Je n'aime pas beaucoup Nicolas Sarkozy, chacun le sait, mais je lui rends hommage pour la nomination de Rachida Dati comme garde des Sceaux avec rang de ministre d'État. Voilà, oui, c'est ce qu'il faut pour banaliser les choses.
C'est vrai, exact. Ouais, c'est vrai, c'est celui qui a fait le plus pour la diversité. Merci, docteur Majid Seyoussine.
À votre service, mon cher Adil.
Merci et à mercredi prochain, sans faute, c'est ça, hein?
Avec joie.
Le rendez-vous est noté. On marque la pause, la dernière d'ailleurs, de la tranche horaire. Et on se retrouve tout de suite après, justement pour commenter cette déclaration du père de Valérie Pécresse qui se mêle de la polémique et qui décide, lui, de tacler Nicolas Sarkozy. Ah! Il a fait le pitbull ou quoi, non? C'est ça?
Je sais pas, moi.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Bah, il défend sa fille, et je le comprends.
Bon, est-ce que c'était à lui de défendre le...
Ah, sa papa. Bon. Dire que c'est moi son honneur.
Qu'il eh ben, on va en parler.
Défendre, ouais,
eh ben, on va en parler. Ça va clasher. On va en parler. 01-53-48-3000. On vous attend aussi. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Gamal Abina, mais également avec Rudy Kazi. Messieurs, mesdames, 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on vous attend au standard, justement, pour commenter l'actualité. Alors, depuis sa défaite à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, vous savez, elle n'arrête pas de ressasser sans arrêt que les erreurs commises durant sa campagne, eh bien, elle pointe du doigt un certain nombre de choses, dont la trahison de Nicolas Sarkozy. Peut-on d'abord parler de trahison? Quand on remonte dans l'histoire, la genèse, il n'y a eu jamais de rapport cordial avec, les rapports cordiaux avec, comment s'appelle, Valérie Pécresse et à la fois Nicolas Sarkozy. Ça a toujours été la guerre en permanence, hein, et puis, n'oublions pas que Valérie Pécresse, fut un temps, elle a quand même trahi Nicolas Sarkozy, Gamal Abina.
Déjà pour commencer, en politique, il n'y a pas de...
Et le père s'en mêle. Et le père s'en mêle.
À juste titre.
Et le père s'en mêle en disant, ce mec ne sait pas vivre.
Il a totalement raison. Il y a des choses qui sont faites. Elle a été le voir avant la campagne, avant sa défaite. Alors c'est gentil, vous dites que ce n'est pas une défaite, c'est une piquette qu'elle a subie. Donc, parce qu'on passe quand même d'une aide à l'espoir à 15% à moins de 5%, c'est une humiliation. Mais elle a été le voir avant la campagne, il est adoubé, littéralement. Et elle en parlait avec de bons termes. Pendant toute sa campagne, elle faisait référence à Sarkozy, sachant qu'il n'est pas forcément le personnage le plus aimé des Français. Et à l'arrivée, il l'abandonne alors qu'elle a besoin de soutien de son parti, parce que Sarkozy ne voulait pas d'elle, contrairement à l'idée reçue. Il l'a dit par la suite, il a été... Alors pourquoi est-ce que le père intervient? Parce que Sarkozy leur a jeté 2000 euros. À l'époque, quand il était en difficulté, elle lui a donné 5000 euros. Ça, c'est une question d'élégance. Millions de syndicats, la même somme. Et surtout parce qu'il a dit quoi? Il a dit qu'elle était nulle, sa campagne était nulle, ce qui n'est pas faux. Mais quand on est dans le même parti, on ne dit pas ça. Une question de solidarité de militants.
Bon, donc, quand il Nicolas fait Sarkozy, ça, le père. En parler.
Et le père fait bien de dire qu'il ne sait pas vivre. Quand on a un minimum d'élégance, d'abord, on ne tape pas sur une femme, pour commencer, un peu de classe. Et surtout, on ne tape pas sur son propre camp politique. C'est quand même, surtout de la part d'un monsieur Sarkozy qui a autant d'affaires sur le dos, dont certaines sont des condamnations fermes aujourd'hui, il devrait avoir l'élégance d'un petit peu d'humilité. Il ne l'a pas fait. Et puis pour finir, dernier point, j'ai envie de dire que quand même Nicolas Sarkozy s'est fort du café, et c'est quand même lui qui s'est vautré pour sa réélection. Il n'a pas réussi.
Non. Donc
donner des soins à une femme qui n'a pas été aidée...
Parce que Macron a réussi.
Ouais. Voilà, alors c'est un incapable. Il ne faut pas donner de soins, un petit peu de mesure.
Rudy Kazi, justement, vous savez quoi? Le chèque de 2000 euros, qui a été rebaptisé par le chèque de la honte,
absolument,
par les militants de Valérie Pécresse, elle n'en voulait pas, hein, elle l'a renvoyé le chèque de Nicolas Sarkozy en disant qu'elle ne vaut pas l'aumône, mais la solidarité. Elle dit, ce mec, enfin c'est le père de Valérie Pécresse, ce mec ne sait pas vivre. Alors Rudy Kazi,
est-ce qu'il aurait dû dire ça ou pas?
Bah,
il a le droit de le penser. Je veux dire, on vit dans un pays où la liberté d'expression est censée être concrète et protégée par la Constitution, etc. Donc il a le droit de le penser. Maintenant, après, est-ce que c'est utile et habile de le dire dans la période dans laquelle se trouve sa fille, à savoir qu'il lui manque 3 millions d'euros.
C'est ça.
Et que, bon, ça fait quand même suite à une défaite qui n'est pas simple à vivre. Bah, de toute façon, pour toute personne en politique qui s'engage, vivre une défaite, c'est compliqué. Moi, je pense que, voilà, si on se place d'un point de vue purement humain, on peut se dire que bah, c'est le papa qui a parlé. Je veux dire, on est tous pères de famille ici. On peut le comprendre. Si on se place d'un point purement, purement politique, je pense qu'il aurait mieux fait en fait de ne pas sortir dans les médias comme ça. Après, on ne sait pas dans quelle manière ces propos ont été rapportés, mais je pense qu'il aurait pu se garder de le dire parce que ça met, ça remet un peu de l'huile sur le feu, ça attire à nouveau en fait les caméras et les médias autour. Je pense qu'en fait après ce genre de défaite. Mieux vaut en fait entre guillemets se concentrer sur sa vie, faire un petit peu profil bas, etc., et se reconcentrer sur la prochaine, échéance pour mieux rebondir. Mais en général, quand on est candidat et que les parents font des sorties ou des proches de la famille font des sorties comme ça, en général, on le vit pas très bien.
Je veux quand même en dire.
Bon, Gamal Abina.
D'abord, c'est le père, c'est vrai, on vient le souligner, mais surtout, non, il a raison. Sarkozy est quelqu'un qui est littéralement atomisé, qui est un personnage qui est peu fréquentable politiquement aujourd'hui. Hein. Il y a quand même, c'est pas les petites affaires qui sont autour de lui. Sarkozy est quelqu'un qui n'a pas d'amis.
Ça l'empêche pas de fréquenter Macron, apparemment.
Oui, mais ça, c'est le débat. Macron est fort, c'est l'homme fort. Il fait ce qu'il veut. Il peut entendre Sarkozy et entendre un conseiller Mitterrand, donc Jacques Attali. Donc c'est pas un problème.
Donc, peu fréquentable, ça dépend pour qui.
Comment?
Donc peu fréquentable, ça dépend pour qui.
Non, il n'est pas fréquentable. Sarkozy est quelqu'un de pas fréquentable. Politiquement, il n'est pas fréquentable.
Mais il a raison de dire Rudy que c'est
ça. Bah, s'il n'est pas fréquentable, pourquoi il est fréquenté par des Macron
parle à tout le monde. Macron ne parle pas qu'à Sarkozy. Il ne fait pas d'exclusive.
Bah, si j'entends ce que tu dis, je me dis s'il n'est pas fréquentable, Macron en fait aurait tout intérêt à pas le fréquenter.
Pas du tout.
En fait.
Macron est l'homme fort, donc il fait ce qu'il veut.
Mais pourquoi est-ce que Pécresse va le voir alors?
Parce que Pécresse a fait une erreur. Elle a cru en cet homme, elle s'est trompée, elle s'est fourvoyée. Elle aurait mieux fait de se concentrer sur un vrai mouvement républicain qui ne soit pas Sarkozy. Sarkozy, c'est un opportuniste.
C'est un point de vue. Hein. Mais à ce moment-là, je pense qu'il n'est pas un fréquentable.
En termes politiques, c'est pas un point de vue, c'est un fait. Il a été condamné à de nombreuses reprises.
Non, je dis que c'est un point de vue qu'effectivement que les gens aillent le voir.
Ah oui, c'est autre chose. Bah après tout, certains diraient le contraire.
Parce qu'il est encore fréquentable.
Certains vous diront, par exemple, bah si, il est fréquentable, on continue.
Non, quand quelqu'un a des affaires comme celle-là, bah c'est pas d'hier. Des affaires dans la politique, ça a toujours tué les hommes politiques.
Non, mais les amis de Sarko, quand même.
Michel Noir, à l'époque, à Lyon, il a été grillé.
Un ami reste un ami, c'est pas parce qu'il a des casseroles.
Il y a deux choses qui font. Non, il y a deux choses qui font qu'il est pas fréquentable. D'abord, c'est pas un homme fiable. Tous ses amis les a abandonnés quand il y a des affaires qui sont tombées. Il les a jetés littéralement. On voit ce qui s'est passé, il y en a qui dorment en prison actuellement. Deuxième chose, c'est un type qui a eu des postures politiques à l'international qui sont calamiteuses. La question libyenne et j'en passe. Et pour finir, surtout, c'est que M. Sarkozy, qui est un homme de l'échec, il n'a pas gagné, il a perdu encore une fois, ne peut pas donner de leçons. Donc il est normal que avec autant de dossiers sur lui, avec une image délétère, genre la popularité de Sarkozy, on la mesure, elle n'existe pas. Et qu'il arrive en donnant des leçons, c'est quand même culotté. Ah, maintenant, j'ai envie de dire que frapper sur une femme qui est à terre, parce qu'il ne l'a pas aidé, c'est ça. Ouais,
mais elle a perdu Pécresse, c'est pas parce qu'elle a perdu à cause de Sarko, elle a perdu parce qu'elle était mauvaise.
Non, elle était mauvaise, il n'y a pas de problème. Mais je pense que sa défaite a été accélérée par le refus du soutien de Sarkozy, donc de son
propre
sélection politique.
Je trouve que ce serait donner trop d'importance à un soutien qui aurait pu lui être utile, évidemment, mais avec lequel elle n'aurait pas forcément gagné.
Ça compte. Elle n'aurait pas gagné, mais ça compte.
Je dis pas
que si Nicolas Sarkozy aurait déclaré le soutien à Valérie Pécresse, elle aurait pu quand même faire mieux.
On est d'accord. Mais tu vois, je veux dire. Oui, mais enfin. Non, mais on s'est compris.
Je parle de ne pas descendre sous 5%, c'est que ça.
Elle aurait fait 8, 9, 10.
Voilà. La victoire, c'est possible.
Ouais, mais je veux dire 8, 9, 10 quand même pour la droite, c'est un mauvais score.
Faut pas
se leurrer. Alors oui, là-dessus, je suis OK, d'accord. Mais faut pas se leurrer que ça reste un mauvais score. Non, moi, je pense que c'était couru d'avance. De toute façon, le relationnel entre Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, je veux dire, c'est un secret de polichinelle que les rapports sont un peu compliqués. Mais par exemple, lorsqu'elle va le voir dans son bureau de Miroménil, qu'elle ressort seule et qu'elle fait une interview et surtout qu'elle dit avoir été adoubée.
Absolument.
Moi, je pense qu'effectivement, c'eût été utile de pas aller jusque-là quand on sait qu'effectivement les rapports sont déjà compliqués. Moi, je parle pas d'infréquentable, etc. Je veux dire, c'est injusticiable. C'est censé, en tout cas, être injustiable comme un autre.
Il est encore en cours.
Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas abordé la guerre en Ukraine. Avec les États-Unis qui s'apprêtent à débloquer 40 milliards de dollars supplémentaires, justement. C'est un article du Monde aujourd'hui que je vous invite à vraiment à lire. Parce que les services de renseignement américains, ils considèrent que l'objectif que Poutine, justement, qui compte une baisse de soutien sur l'Ukraine, c'était de porter la guerre jusqu'en région de Moldavie séparatiste. Alors, messieurs, pour mieux comprendre et mieux décrypter tout cela, la guerre, elle perdure, elle continue, elle fait beaucoup de mal. partout en Europe, partout dans le monde d'ailleurs. On parle même d'ailleurs de grosses famines à venir sur le continent africain. Ça va faire, ça va être, il va y avoir des conséquences terribles, Gamal Abina.
Déjà, on va commencer pour la Transnistrie, donc cette fameuse région moldave, c'est une blague. C'est pas sérieux.
Pourquoi ?
Pour deux raisons. D'abord parce que ça n'intéresse pas.
Les Américains, ils débloquent 40 milliards.
Ça, c'est du baratin aussi.
Ça, c'est du baratin ?
C'est juste une enveloppe budgétaire.
C'est pas pour la Moldavie, pour les 40 milliards.
Non,
c'est pour l'Ukraine.
C'est pour, l'Ukraine. Ouais, voilà. C'est pour vendre des armes à l'Ukraine et l'Ukraine va s'endetter dans des proportions monstrueuses pour rien. Ils débloquent pas 40 milliards pour les donner. Les Américains ne donnent jamais rien. Même les armes qu'ils ont données aux Russes, soi-disant, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été vendues. Ça, c'est une chose. Ensuite, pourquoi ? La Transnistrie, qui est donc une région frontalière.
Qui est la région séparatiste.
Séparatiste frontalière, donc, de l'Ukraine et la Moldavie, n'intéresse pas Poutine, donc Moscou, pour deux raisons. D'abord parce qu'il cherche qu'un seul objectif, c'est avoir sans doute annexé les territoires du Donbass et de Crimée pour sécuriser toute la zone sud, la zone est qui est frontalière de la Russie. L'autre zone n'est pas frontalière de la Russie, n'a aucun intérêt stratégique. Je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Mais par contre, ce qui est intéressant d'en parler du côté américain, c'est pour donner le sentiment, parce qu'ils avaient raison sur l'invasion de l'Ukraine, ça c'est pas discutable, pour donner le sentiment, attention, ils s'apprêtent à attaquer l'Europe, ce qui est un mensonge. Poutine, ses plans de guerre, ils sont très clairs. Il a dit, je veux libérer les zones russophones. C'est russophone. Uniquement ça et pas plus.
Alors, il veut quoi, George Biden? Il cherche quoi, George Biden?
Biden est un homme de guerre. Il veut la tête de... Oui, c'est... Il non, il n'est la... pas la tête de Poutine. Il ne peut pas l'avoir. C'est un homme qui cherche la guerre et faire de l'argent. Il faut comprendre la logique américaine. Les Américains, pour la Première Guerre mondiale, se sont enrichis de façon abyssale parce que l'Europe s'est tapée. Parce que l'Europe se détruisait elle-même. Les Américains ont reprofité à nouveau de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu des armes. Ils ont laissé l'Europe se détruire. Ils leur ont fait ce fameux plan Marshall. On traduit le plan Marshall. C'est pas un don, hein, ça c'est une blague. Non, c'est un prêt remboursé par l'or européen. Les Européens ont payé en or. Ils se sont endettés pendant des décennies. C'est ça ce que font les Américains. C'est qu'ils profitent des guerres à l'extérieur puisqu'ils sont sur un îlot. Ils sont tranquilleux. Et pendant ce temps-là, ils font de l'argent. Donc aujourd'hui, il faut bien mettre en garde les autorités, si elles écoutent ou si les gens écoutent, que ces guerres qui sont largement encouragés par les États-Unis, qui ont poussé à la faute Zelensky, qui n'est pas un politique, c'est un clown, on le sait très bien, c'est un pantin malheureusement. Eh bien, ça a conduit à la mort de malheureux Ukrainiens qui n'avaient pas à mourir pour cette guerre inutile, alors qu'on aurait dû négocier, revenir sur Minsk, et surtout, ça a conduit à quoi ? À une escalade du retour de la guerre froide, et donc de l'escalade de l'armement des États, comme les 100 milliards pour les Allemands, qui achètent d'ailleurs américains, je le rappelle. Ça, c'est catastrophique, parce qu'on est en train de créer des tensions qui conduisent à des morts. Et on peut pas accepter cela.
Sauf que là, on parle de famine, on parle de beaucoup de choses.
On va parler de ça, justement. La famine, c'est quoi? C'est pas les Russes.
C'est les répercussions économiques.
C'est pas les Russes. La famine, faut être très clair sur ça parce que j'aime pas ce genre de manœuvre. La famine, c'est pas les Russes.
Bah, il va y avoir une pénurie, mon cher ami. Je suis pas en train de l'inventer.
C'est déjà un peu le cas.
Quand on connaît le marché financier.
Dans 6 mois, on manque de blé.
C'est pas vrai. Ça,
en Afrique,
c'est des projections. Il faut savoir que les marchés à terme, quand on achète du blé, par exemple, c'est pas dans 3 mois ou dans 6 mois. Oui. C'est négociable d'un an sur l'autre, quasiment d'une année. Donc la saison cette année-là, elle est assurée, ça n'augmente pas. Sauf que les spéculateurs américains, c'est coté, je vous invite à regarder, à Chicago, c'est eux qui cotent le marché international des denrées alimentaire. Les spéculateurs américains, ils parient sur le fait qu'il y aurait peut-être moins de blé, ce qui n'existe pas. Pour l'instant, la saison de blé ukrainien et russe, elle est là. Et ils disent, puisqu'ils représentent 30% du marché, il y aura donc 30% en moins, spéculation, donc on va augmenter les prix mécaniquement pour s'en mettre plein les poches. Et qui est le deuxième producteur de blé au monde? Je vous le demande, les États-Unis, comme par hasard. Donc ça leur profite. Il n'y aura pas de pénurie alimentaire, par contre, le risque pour les Africains, c'est une augmentation monumentale de la facture.
Dernier mot, je dois rendre l'antenne.
Écoute, de toute façon, sur ce conflit, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'aimerais quand même mettre le curseur plus sur les conséquences économiques qui frappent quand même la France et qui vont continuer d'aller dans ce sens parce que cette guerre qui ne date pas d'aujourd'hui, dont on pourrait éventuellement s'interroger sur le prisme médiatique actuel, va continuer en fait. Voilà.
Exactement. Merci Rudy Kazi. Merci Gamal Abina. Merci à la réalisation Yanis. Merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent, qui sont de plus nombreux au 01 53 48 3000, mais également aussi restez fidèles aux informés sur BFM. Bilal Nedman, c'est Time Sport qui prend le contrôle justement avec un programme toujours aussi riche, toujours aussi dense, toujours aussi sportif. À demain, on ne lâche rien. Portez-vous bien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.